allons nous gaver d'amour jusqu'à en crever.
Oui.
On vient de faire l'amour, tu sais.
Non, tu viens de faire l'amour.
Je vous demande pardon.
Est-ce que vous l'aimez?
Je t'aime.
Et qu'est-ce que je peux bien répondre à ça?
Bonjour Clara.
Bonjour Flore et bienvenue dans Rom-Com, le podcast qui t'explique comment, mais comment sont construites tes rom-coms préférées. Et on est de retour en pas présentiel, pardon.
Oui, on est en distanciel, distance de sécurité. À nouveau confiné, bon, un peu des guillemets quand même, vu la vie que tout le monde mène.
Oui, vu que je dois travailler trois fois par semaine, confiné, enfin,
les ticomètres sans attestation, ouh, c'est le feu ça. Mais voilà, Clara est dans une jolie maison, je sais même pas le nom de l'endroit où t'es.
Bah, je suis chez ma meuf, évidemment.
Ça, je le sais.
Putain, le time code, il y a combien? C'est arrivé très tôt.
J'avoue, est-ce que c'est un nouveau record?
Je pense que c'est un nouveau record, donc
c'est pas mal.
Et oui, je profite de la vie en banlieue avec un énorme jardin chez ma chère et tendre, et je décolle du papier peint, mais ça ne m'empêche pas de regarder des rom-coms.
Voilà, et moi j'ai aucun problème à regarder des rom-coms puisque je suis toujours célibataire au chômage confinée dans un 23 mètres carrés. Waouh, moi aussi ça allait très vite aussi de dire que j'étais célibataire.
C'est vraiment devenu une émission de 10 fous.
Revenons. Écoutez, non, en plus aujourd'hui, enfin moi personnellement, je suis de très bonne humeur.
Oui.
Parce que on va faire un film que j'avais vraiment très envie qu'on fasse et qui est en plus une rom-com qui est pas si connue que ça en fait.
Non,
en mais les gens qui les connaissent l'adorent en général.
Mm-hmm.
Mais c'est pas une fan favorite comme on dit. Et Clara ne l'avait jamais vu et c'est moi qui ai dit j'aimerais vraiment qu'on la fasse. Et donc aujourd'hui, on fait
Il était temps, About Time, en VO.
Oui, donc... ou À travers le temps, en québécois.
Ah, merveilleux, moi j'adore les VQ. C'est fantastique. Est-ce que tu peux nous faire peut-être la petite fiche d'identité du film avant qu'on fasse un petit résumé?
Oui, très important, parce que Il était temps est en fait un film qui a été écrit et réalisé par qui? Évidemment, attention, préparez-vous à être choqué.
Alors là,
Richard Curtis, mesdames et messieurs, qui s'y attendait? Une rom-com anglaise par Richard Curtis? Tiens, c'est fou ça.
C'est
jamais
fou.
Entendu parler.
Wow. Incroyable.
Alors oui, donc par le seul et l'unique Richard Curtis. Je crois que c'est le combienième film de lui qu'on fait?
Ça doit être le troisième, quatrième, parce que ouais, un truc comme ça.
Ouais, voilà, on est des grandes fans et c'est toujours un succès de mon côté. Et un film donc qui est sorti en 2013 avec, alors je sais pas exactement comment on prononce son prénom, Domhnall Gleeson.
Ouais, moi je dirais
c'est
ça.
Domhnall en fait.
Non, c'est Domhnall. Ouais.
Bon, alors moi je l'appelle Bill Weasley, ceux qui savent
voilà.
Comprendront. Bill Nighy, évidemment, ceux qui savent aussi sur quel homme. Et l'irrésistible girl next door de toutes les rom-coms, Rachel McAdams.
Oh là là.
Fun fact, meuf, le rôle a failli aller à Zooey Deschanel.
Mais non, ah bah salut, je préfère dans ce rôle-là Rachel McAdams. Alors j'aime bien Zooey Deschanel.
Moi aussi,
maintenant.
Mais je pense que parce que Zooey Deschanel, elle a vraiment ce côté genre très rigolote, quirky que
très new
que
girl.
Du coup on associe, que je trouve qu'il va pas forcément avec le rôle de Marie.
Ouais, pas du tout. Ouais.
Mais voilà pour le petit fun fact. Et est-ce que Clara, tu ne raconterais pas un peu l'histoire du film pour qu'on comprenne sous quel trope, je le rappelle, un schéma narratif récurrent dans la fiction, on va l'analyser puisque bon, le résumé indique vraiment la trope.
Et oui, car l'histoire de Il était temps, c'est qu'en fait, il était temps d'utiliser un super pouvoir. On n'a jamais fait, il me semble, une rom-com fantastique d'ailleurs. C'est la première
ouais.
fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas très réaliste, ou alors peut-être qu'on se trompe. Ah bah non, pardon, on a fait Twilight, oublié.
Mais attendez, Twilight, encore une fois, c'est pas vraiment.
Oui, voilà, bon, c'était notre hors-série. En tout cas, du coup, le voyage dans le temps est au centre de l'intrigue de Il était temps, puisque c'est l'histoire de Tim qui se rend compte à son 21e anniversaire. Son père lui avoue que tous les hommes de sa famille ont un super pouvoir, ils peuvent remonter dans le temps. Et donc, lui, il va s'en servir pour, comme il le dit si bien, pour l'amour, pour arriver à trouver l'amour, arriver à garder l'amour. Et en fait, on va se rendre compte que parfois, c'est bien, parfois, c'est beaucoup moins bien, et que surtout, au final, avoir un super pouvoir, et ben, ça permet peut-être pas de vivre la meilleure vie qu'on peut.
Oui, alors, petite anecdote que j'ai appris en lisant la page Wikipédia il y a littéralement 10 minutes pour en apprendre un peu
plus. Cette émission est préparée.
Voilà, exactement. On fait des grandes recherches, on est des spécialistes. En fait, c'est une idée. L'idée du film est venue à Richard Curtis où il a fait un repas avec un ami et un ami qui était un peu déprimé. Ils avaient une discussion sur qu'est-ce que c'était que le bonheur et ils avaient une discussion sur qu'est-ce qui était ton jour parfait. Et en fait, Richard Curtis s'est rendu compte qu'en fait, la journée qu'il était en train d'avoir où il déjeune avec son ami, pour lui, ça constituait une journée parfaite. Et qu'en fait, du coup, pour lui, ça l'a inspiré du coup de faire un film sur, en gros, les joies du quotidien et à quel point est-ce que les choses ordinaires peuvent te rendre heureux. Et il s'est dit, bon, c'est trop simple, entre guillemets, comme concept. Et donc, il a rajouté le concept du voyage dans le temps. Mais voilà, c'est un peu un film qui est un ode aux petites choses de la vie. Et franchement, en ce moment, est-ce que c'est pas le truc parfait?
Ah si, si,
on a
si.
Tous besoin.
Bah, je vais commencer du coup parce que je ne l'avais pas vu et honnêtement, ce film. Alors bon, il y a eu deux aspects de ce film au début. J'étais très heureuse de le voir. J'étais trop contente. En plus, je dis on parce que maintenant évidemment, on est un package. Mais je l'ai regardé avec ma copine, on l'avait pas vu et du coup, c'était hyper. C'est hyper mignon au début. Puis le voyage dans le temps est vraiment utilisé pour faire des ressorts comiques. Qui fonctionne hyper bien, donc c'était super chouette, vraiment très rigolo, etc. Et en fait, le film prend un tournant au bout d'une heure et demie. Et j'étais là, attendez, Flore, pourquoi tu me fais regarder ça dans un moment où on est tous un peu fragiles, un peu tristes? Et en fait, ce film m'a mise au sol. Je sanglote rarement devant les films. Je pleure souvent. Mais là, j'ai eu des vrais sanglots à base de... vraiment des trucs où c'était genre physiquement éprouvant de regarder ce film. Et c'est pour ça que j'ai adoré, parce que j'ai trouvé ça vraiment trop génial. Ça m'a procuré toutes sortes d'émotions très légitimes, évidemment. Mais surtout, enfin des trucs que j'avais pas ressenti depuis longtemps en regardant juste une rom-com. Donc j'ai trouvé ça super. Les acteurs jouent vraiment très très bien, l'outil du fantastique est pas utilisé à outrance, c'est vraiment très rentré dans leur réalité à eux, donc on n'a pas du tout du mal à y croire. J'ai quelques réserves sur l'utilisation du voyage dans le temps pour les démarches amoureuses où à la fin du film je me suis dit ah tiens, ça n'a pas du tout été évoqué, mais on en parlera à la conclusion je pense.
Oui, c'est drôle parce que quand j'ai vu le film, je me suis dit, j'espère que ça va pas bloquer Clara, parce que c'est vrai qu'il y a certains trucs qui moi-même je trouve sont pas hyper. Enfin, tu fais un pacte un peu quand tu regardes une rom-com, tu acceptes que voilà, il y a des choses qui sont un peu. Et d'ailleurs, je trouve que ce film a certaines blagues qui pour un film de 2013 c'est déjà un peu limite.
Ouais.
Mais personnellement, comme je l'ai déjà dit, j'adore ce film. Je le trouve vraiment très charmant. C'est vraiment, je pense, une de mes rom-com préférées parce que en fait, c'est un film qui est pas exactement une rom-com en fait.
Bah, ouais,
dans le sens où je trouve que ça parle vraiment de plein d'autres sujets. Et d'ailleurs, en fait, c'est dit dans la page Wikipédia, c'est une comédie romantique dramatique.
Dramatique, en phase et sur le dramatique.
Voilà, oui, c'est très triste et je pleure à chaque fois que je la vois, même si je sais que ça arrive, je pleure. Mais je trouve ça tellement beau, je trouve ça hyper poétique, je trouve ça... Et les Anglais, je le dis toujours dans ce podcast, mais littéralement, le début de mes notes pour cet épisode, c'est oh, « c'est long quand même, j'avoue, j'ai un peu la flemme, parce que le film est assez long.
Ouais. »
Suivi de « oh, j'adore tellement les Anglais !» Au bout de 30 secondes de film, j'étais déjà dans le truc, parce que c'est ce charme british qui marche à chaque
ouais,
fois.
Ouais, c'est hyper charmant, franchement, t'es séduit minute 1, quoi, c'est génial.
Ouais, et aussi, on en reparlera après, mais j'aime beaucoup l'acteur principal, même si je n'arrive pas à prononcer son prénom. Tu sais, on en revient un peu à quand j'arrivais pas à prononcer Jake ou Jack dans Titanic, je savais même pas dans quel sens le dire.
C'est le point orthophonie, ouais.
Ouais, c'est ça. J'ai un peu des petits problèmes de prononciation. Mais je trouve qu'il est hyper attachant, l'acteur joue très bien. Et il y a un côté très accessible et j'aime bien dans les comédies romantiques quand le love interest est assez accessible comme
ouais.
ça.
Ouais, ouais, ouais.
Et voilà, très charmant. Et puis bon, Rachel McAdams aussi. Bon, voilà.
Oui, on a oublié le point Rachel McAdams, mais c'est évidemment.
Maman est au courant?
Pas l'ombre d'un soupçon.
C'est bizarre, et toute cette histoire des faits?
Des faits papillons, que te dire? Jusqu'ici, on n'a pas mis la civilisation sans dessus dessous.
Ça va compliquer mon année.
Ça va te compliquer la vie.
Moi j'adore quand les films commencent avec une voix off, donc là j'étais ravie parce que bah, le film commence avec une voix off.
Mais surtout la voix off, moi la voix off je trouve ça très charmant, mais c'est ce qu'elle raconte. C'est, j'adore, moi, quand ils te posent les personnages comme ça et les histoires comme ça, c'est trop... C'est ultra cliché, mais c'est trop attachant.
Oui, j'adore. Excusez-moi, je baille. C'est pas du tout vous m'emmerdez, hein. C'est juste que...
mais vous, parce que elle est restée debout tard pour faire beaucoup de recherches sur le film. On vous a dit, on fait beaucoup de recherches sur ce qu'on fait.
Oui. Oui, mais c'est exactement ça. Et pas du tout parce que j'ai zappé sur IDF1 parce qu'il y avait des voyantes qui répondaient à des gens à 1h du matin et que ça me fait mourir de rire.
Tu m'as pas envoyé le lien ? Attendez, pardon. On perd, revenons, restons concentrés. À ce moment-là, donc, dans le film, la première scène d'ouverture, en gros, une team, le personnage principal, nous présente sa famille et leur petite vie dans leur maison. Mais là, mais le
oh là là. Rêve,
mais je, moi si je, là si je vivais là-bas, mais confinez-moi pendant 3 ans, genre.
Oh, c'est une petite maison au bord de la mer, dans les Cornouailles, je crois. Donc trop bien, trop chou, très portrait de la jeune fille en feu vibe, j'ai noté.
Oui, moi je me suis dit qu'il y avait un peu, moi je me suis dit il y avait un peu une vibe maison normande, tu sais, en mode beaucoup d'étages, oui, voilà, hein. sur la plage. Et du coup, il nous présente toute sa famille et c'est le truc. Alors son père est un espèce, bon c'est Bill Nighy, du coup il y a toujours cette, un peu ce côté un peu décalé, un peu chez père. La mère, je sais plus comment il décrit, dit sa style, enfin en gros son icône mode, c'est la reine d'Angleterre.
Oui, c'est ça.
Il y a son oncle qui est un peu, qui est complètement perché, en fait j'allais dire un peu, mais complètement perché. Et mais c'est un mood complet ce mec, lui, oui. Lui il vit sa best vie. Moi j'adore, mais en fait, et il y a la sœur qui cate, mais ce que j'adore en ce moment c'est qu'il y a plein de détails. Dans les personnages où par exemple du coup l'oncle, ils disent bon voilà, il est complètement chez père, il est dans sa bulle, mais il est toujours très bien habillé.
Oui.
Et genre Kit-Kat, bah sa couleur préférée c'est le violet, dans tout le reste du film bah sa voiture elle est violette, ses hauts ils sont violets. Enfin c'est des petits trucs qui fait que c'est hyper charmant, hyper ouais. Vite et il y a plein de petits détails. Un peu plus loin après, on va voir, il y a une affiche d'Amélie Poulain dans la chambre.
La chambre de Tim, ouais.
Donc c'est juste, c'est trop mignon quoi.
C'est trop trop chou. Et puis cette famille adorable et en apparence parfaite, très anglaise, hein, tout le monde est roux, c'est important de le préciser. On va fêter le nouvel an, donc c'est le nouvel an, je sais pas quelle année, mais en tout cas, c'est une vraie fête d'anglais. J'ai noté parce qu'il y a Tatou et Mr. Brightside.
Moi aussi, j'ai noté, j'ai marqué... Tatou en fond, j'adore. Icône lesbienne, suivi de y a Mr. Brightside, tellement anglais, j'adore.
Tellement anglais.
Si vous ne connaissez pas cette chanson Mr. Brightside de The Killers, qui est en fait un groupe américain en plus.
Oui, d'ailleurs.
Je vous conseille, alors attention, je vous fais une petite parenthèse, encore une fois, on est dans Difool et je vous raconte ma vie, mais un des trucs que j'adore regarder qui me fait pleurer, c'est je regarde des lives sur YouTube de Mr. Brightside en Angleterre. Parce que le moment où les premières notes sont jouées, mais c'est la foule, les fous, mais oui, mais pour eux c'est du crack. Et je trouve ça hyper émouvant de voir des foules comme ça qui sont en extasie, en osmose comme ça devant quelque chose, je trouve ça hyper émouvant. J'adore. Donc je vous invite à aller voir celle du Royal Hall, c'est du Royal Albert Hall Museum là, ou je sais pas quoi, sur YouTube, super top live, voilà. Mais revenons dans le film et revenons dans leur nouvel an qui se passe
Bah en gros l'histoire c'est que tout le monde se pécho à minuit sauf Tim, mais Tim on se rend compte que son grand problème bah c'est les femmes quoi. Déjà parce qu'il est hétérosexuel et parce que il en trouve pas.
Mais c'est pas faute, il passe quand même son nouvel an avec une fille qui, alors on va
voir, dans Fleabag, c'est Boo dans Fleabag.
Mais est-ce qu'elle t'a rappelé quelqu'un ou pas?
Elle me rappelle Sophie Marie Laroui, mais
ce que je veux dire, je trouve qu'elle me ressemble un peu physiquement.
Ah bah un petit peu oui, mais tu ressembles à Sophie Marie Laroui, donc oui.
C'est je vrai. Ne sais pas qui est cette autre personne, je ne sais pas qui est cette Sophie.
Ah c'est une super meuf, n'hésitez pas à aller voir ce podcast d'ailleurs.
Mais c'est le côté blonde avec les grands yeux et le petit sourire et le côté un peu
le nez retroussé comme ça. Ouais, je suis assez
donc,
d'accord.
Voilà. Et après peut-être que je projette parce que j'avais envie d'embrasser au nouvel an Tim.
Mais attends, bon, mais là ils s'embrassent,
oui,
pas.
Ils s'embrassent pas parce que au premier nouvel an ils ne s'embrassent pas. C'est le lendemain, mais du coup il est né du coup genre le lendemain du nouvel an, c'est pas très clair cette histoire.
Ouais, il est né le 1er janvier quoi, en gros.
Un Capricorne. Point astrologie. Et il a 21 ans. Et ouais. Qu'est-ce qui se passe le jour de ses 21 ans?
Le 21 ans, le bel âge, son père lui dit « Viens, fils, dans notre énorme bibliothèque avec 25 murs remplis de bouquins où je lis du Kundera. » Et il lui dit « J'ai un truc à te dire. En fait, les hommes de notre famille peuvent voyager dans le temps. » Et à ce moment-là, Lucie, ma meuf, qui savait ce qu'on allait regarder, a fait « Oh là là, j'avais oublié le principe. » avant, regardait juste une rom-com avec Mr. Brightside, ce qui est tout à
fait. Et tout d'un coup, elle se réveille.
Oui, là, c'est vrai, oh là là. Pouf.
J'aime bien ça, quoi. Il dit on peut voyager dans le temps. Et en fait, il n'y a pas. Dans le film, ça va être souvent là, mais c'est. Enfin, c'est pas que c'est pas important, mais en fait, c'est hyper simpliste quand même comme approche.
Ouais.
Parce que tu peux pas, voyez, tu peux juste aller là où t'as déjà été. Enfin, j'adore, le père dit, et non, je ne peux pas aller me faire Hélène de Troyes, ce qui est clairement un mood. Parce que oui. Qui n'aimerait pas aller se faire Hélène de Troyes? Ce que j'aime bien aussi, c'est que, donc, juste, il faut aller dans un placard et fermer les yeux et tu. Mais en fait, pareil, j'ai lu sur la page Wikipédia que visiblement ils avaient réfléchi avec des studios à faire des mises en scène pour le voyage temporel et qu'ils se sont rendus compte que ça rendait toujours un peu grotesque.
Bah
et
ouais,
que
ouais,
c'est
ouais.
pour ça qu'ils ont gardé un truc hyper simple. Et je trouve que c'est ça qui fait aussi le charme du film.
Mais après, ça fait hyper Doctor Who si tu mets des effets et tout. Mais là, ouais, en gros, il va dans une pièce noire, il serre les poings et bim, il est dans un autre endroit. Et moi, j'ai noté, oh putain, ça marche. Parce que quand il teste, ça va hyper vite, hein. C'est retour à la soirée du Nouvel An.
Ouais, ce que j'aime bien aussi, c'est que genre, Tim, il est un peu chill. Son père, il lui dit ça, il est là, arrête la blague et tout. Bon, ok, je vais aller tester. Et après, une fois que c'est fait, tu sais, il voyage dans le temps, il est là, ah ouais, ok, ça a marché. Non, mais moi, j'arrive à voyager dans le temps, mais c'est un breakdown complet de tout ce que je fais.
Moi, je vomis, je pense. Vraiment, ma anxiety response, c'est vomir.
Mais encore une fois, en fait, j'ai l'impression que là, dans ce film, et comme dans souvent les films, d'ailleurs, je trouve, de voyage dans le temps, il faut pas trop essayer de comprendre
ce qui se passe. Non, non.
C'est un peu comme Harry Potter 3. Si tu essaies de comprendre trop le voyage dans le temps, ça t'embrouille et moi ça me lance dans des breakdowns complets, vraiment.
Exactement.
C'est juste, c'est un terme que j'aime beaucoup quand on parle de cinéma ou de littérature, c'est la suspension volontaire de crédulité.
Mmh.
Quand tu regardes un truc, tu acceptes que, en fait, juste, c'est pas logique, c'est pas normal, tu comprends pas ce qui se passe, mais c'est pas grave, t'as signé pour ça. Et nous, aujourd'hui, on a signé pour un film où c'est le voyage temporel.
Exactement. Et ça marche très bien.
Ça marche si bien qu'il revient à son nouvel an. Pourquoi d'ailleurs il veut y retourner?
Bah, pour pécho sa pote, du coup, il pécho Boo dans Fleabag, enfin Flore. et j'adore, parce qu'après, il revient du coup dans le présent, et c'est trop chill avec son père, il est là genre ah ouais, du coup ça marche bien, hein. Et oh, il est là ouais, et genre est-ce que tout le monde a fumé d'un énorme joint?
Après, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il retourne dans le passé pour pécho sa pote, mais après tu sens que c'est pas très amoureux non plus, il est un peu en mode genre why not, et elle lui dit merci.
Oui,
genre, c'est trop rigolo, cette interaction, quoi. Genre tu sens que lui, non mais je trouve que cette interaction est intéressante parce que tu vois que du coup lui c'est un personnage genre qui est gentil en fait. Enfin, oui. Tout simplement,
c'est un gentil, genre, il est...
voilà, c'est un gentil, et nous on aime ça, les gentils,
on adore les gentils, on adore les roux. Ça.
Oui, mais non, mais ça c'est Harry Potter, ça nous a Matrix.
Ah bah oui, ça, pour tous les Weasley là.
Surtout Ginny, personnellement.
Oui, évidemment.
Mais bref, encore une fois, on s'égare. Je suis à deux doigts de lancer la conversation. Quel est ton Weasley préféré? Avec qui tu devrais sortir?
Stop.
Mais revenons, parce que là il va se passer un truc très important. On va rencontrer Charlotte.
Bah, alors là j'étais choquée parce que Charlotte est jouée par Margot Robbie qui est toute jeune et j'étais là, punaise. Alors là c'est celle que je m'attendais moins à voir parce que Margot Robbie est australienne, donc qu'est-ce qu'elle fiche là. Et en fait elle joue une copine de Kit Kat, donc la petite sœur de Tim, qui vient passer l'été chez eux à la maison au bord de la mer.
Mais surtout maintenant Margot Robbie, je crois qu'elle serait plus dans ce genre de film. Enfin, elle est d'un parti ailleurs, tu vois.
Bah ouais, après c'est un rôle qui lui correspond bien, je trouve. Enfin, c'est un
oui,
rôle,
c'est clairement, ouais. C'est un peu c'est la très belle blonde, très séduisante, etc. Et du coup, il commence c'est là qu'on rentre un peu à avoir le voyage temporel comme outil de séduction et d'utilisation, mais il l'utilise pas trop non plus quand même, j'ai l'impression.
Non, ça va pour l'instant, ça va.
Mais il cède un peu, ça commence, il y a une histoire d'une anecdote de crème solaire qui lui renverse partout dessus, oui. Et du coup il est là, non c'est la honte, et du coup il revient dans le temps pour pas que ça arrive. Donc c'est là que je trouve encore que c'est un peu un gentil, il utilise pas son pouvoir pour des trucs de folie non plus, quoi.
Oui, pour l'instant ça va, et en plus Charlotte elle lui met des gros stops, donc on sait que ça va pas aller plus loin, etc. Et d'ailleurs le dernier soir il va la voir en lui disant du coup on a été tout l'été ensemble et je voulais te dire que bah je t'aime bien, et il aurait pu se passer un truc, et Charlotte elle dit ah bah t'aurais dû me le dire avant, et lui fait pas de soucis. Et hop, il remonte dans le temps,
et en fait quand il remonte dans le temps et qu'il va la voir, elle lui dit genre attendons la fin de l'été pour voir ce qui se passe.
Donc il comprend qu'il l'aura jamais, quoi, que ça se fera pas.
Et il le dit d'ailleurs, en fait, on comprend que le voyage temporel, ça ne peut pas fonctionner pour faire que quelqu'un t'aime, en fait. Enfin, c'est pas la solution magique à l'amour, en fait.
Exactement.
Et je trouve ça bien parce que au moins c'est, enfin parce que sinon ça aurait été très étrange comme film sinon.
Non mais oui, ça aurait été hyper bizarre, genre oui, non non. Bon, en tout cas, il fait comme tout le monde quand on a 21 ans, qu'on a fini nos études et qu'on sait pas quoi faire, il prend son backpack et il va dans une grande ville européenne. Hop, donc direction Londres pour trouver un job et une meuf, et il va loger chez un pote de son père qui est écrivain et qui est un de mes personnages préférés de ce film.
Mais j'étais sûre que tu l'adorerais parce que je trouve qu'il a grave des vibes du colloque dans Notting Hill.
Oui!
C'est un peu en moins perché, mais c'est un peu la vibe du... C'est un trope assez récurrent
c'est l'artiste
dans les films. C'est un peu le... Oui, mais aussi le côté, genre, tu sais, le colloque où c'est un peu genre décalé. Les deux ensemble, ils vivent ensemble, mais en fait, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils font ensemble, quoi.
Oui, c'est ça, c'est vrai. Et du coup, c'est Harry, donc l'écrivain fou, qui écrit des pièces de théâtre et avec qui, du coup, Tim va rester parce que Tim a fini ses études. En fait, il est avocat. Donc, avocat à 21 ans, j'étais un peu étonnée, mais bon, soit.
Mais je crois, il est... Bah, alors déjà, en Angleterre, ils ont que 3 ans d'études pour de vrai. Ils ont moins de master et tout.
Oui,
et
je crois pas qu'ils soient... autre chose.
C'est vrai qu'il finit après avocat, mais je crois qu'au début du film, est-ce qu'il est vraiment avocat ou est-ce qu'il est pas d'abord genre assistant?
Oui, il est peut-être juste assistant. En tout cas, il travaille dans un cabinet légal, du coup.
Ouais. Où il vit pas sa best vie.
Ouais, pauvre Biquet, il se fait un copain qui s'appelle Rory, qui a l'air très gentil, mais qui a l'air d'être le bouffon de...
Bah, une victime.
De l'entreprise.
Hein.
Ouais, une grosse victime. Et du coup, il va passer 6 mois dans cette vie de merde avec Harry l'écrivain fou et Rory le bouffon du roi. Mais au bout de 6 mois, il va y avoir une petite sortie, pas très geste barrière, on va pas se le mentir, qui va changer sa vie.
Mais alors ça, vraiment, cette scène, alors si vous ne connaissez pas le concept, on en parle souvent dans le podcast, c'est le concept du meet cute, qui meet, rencontre, en anglais cute, mignonne, en anglais, donc la rencontre mignonne, on pourrait dire, qui a lieu en général quand deux protagonistes se rencontrent, et surtout en général dans les comédies romantiques, et c'est un peu la scène, voilà, où les deux protagonistes principaux vont se découvrir, et celle-là, c'est vraiment l'une de mes scènes de meet cute préférées de l'histoire du cinéma.
Elle est trop mignonne, vraiment, c'est trop charmant. Donc en gros, l'histoire, c'est qu'il va dans un resto dans le noir avec son pote qui s'appelle Jay. Et donc on voit rien. Il y en a à Paris, je sais pas si y en a.
Oui, j'ai jamais été, j'aimerais trop y aller.
Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, ça fait très parisien de dire ça, mais pas du tout. C'est juste que c'est le seul que j'ai vu, il est à Paris. mais j'aimerais bien essayer. En même temps, ça me terrorise. Et c'est exactement ce qui va se passer. Du coup, ils sont à côté de deux filles et ils discutent entre eux. Et ils ne se voient pas. Donc c'est un peu. Il y avait une émission, je crois, sur M6 qui s'appelait L'amour est aveugle à un moment. C'est un peu...
Ouais, c'est un peu ça, ouais.
En gros, ils se voient pas, mais ils se disent, ah, le feeling passe bien, surtout entre, du coup, Tim et une des filles qui s'appelle Marie, comme sa mère, MDR. C'est super mignon, c'est drôle, et ça fonctionne vachement bien, moi, je trouve.
Oui, je trouve que c'est pour ça que j'adore cette scène, parce que c'est fou d'introduire les deux, enfin, cette rencontre qui est le moment, normalement, un peu culte et le plus important dans la rom-com, c'est le moment que tout le monde attend.
Ouais.
D'un truc où tu ne les vois pas et tu les entends juste légèrement discuter. Et en plus, il y a plein de piques en mode c'est très très british comme humour, etc. Et du coup, ensuite, ils sortent du restaurant et c'est un peu la question en mode oh mon dieu, à quoi est-ce qu'elle va ressembler? Et imagine ta chance, tu vas au restaurant, tu te retrouves placé à côté de deux meufs charmantes et quand tu sors, c'est Rachel McAdams, la meuf qui était ta voisine. Non mais attends, c'est quoi la chance que t'as dans ta vie, mon gars, va jouer au loto direct en fait.
Ah bah clairement, ça arrive à personne d'autre, hein. Donc ces pouvoirs viennent avec une chance, une souhaiteté incroyable. Et en plus d'être Rachel McAdams, elle est trop gentille, genre elle est super mignonne. Et au cours de ce dîner, il a appris un truc, c'est que elle est fan de Kate Moss, donc je savais pas que ça existait, les gens fans de Kate Moss.
Alors, en vrai, si je me suis dit, c'est ultra random. Moi, personnellement, Kate Moss, pour moi, c'est juste la meuf qui a fait des commentaires que je trouve horribles. Je crois qu'elle avait dit un truc en mode « Rien n'est aussi bon qu'être mince. »
Ouais.
Rien n'a aussi beau goût qu'être mince.
Après, l'époque a changé, hein. C'est, voilà.
Clairement, mais c'est pas forcément une meuf avec qui j'ai l'impression que j'aurais beaucoup de choses en commun, parce que personnellement, je trouve que les kebabs, c'est vachement meilleur que la minceur, ah bah, en termes de goût, sûrement.
Bon, mais... comme on est dans les années 2000, ils échangent leur numéro de cellulaire et ils sont là genre, ah, trop mignon, trop bien, comme ça, si on veut se revoir, oh bah bien sûr que je veux te revoir et tout. Et il a une pick-up line qui est exceptionnelle où il dit, ce téléphone, c'était juste de la merde il y a 5 minutes et maintenant, c'est l'objet le plus précieux que je possède. Et j'étais là, oh, il est tellement charmant, ça m'énerve, il est très heureux. Mais... très heureux, lui il l'est, mais pas tout le monde, puisque Harry, donc l'écrivain maudit, a passé une soirée de merde, car son acteur principal de sa pièce a oublié son texte sur scène, et ce qui doit être horrible quand c'est une grande première devant tout le gratin londonien. Mais donc Tim décide de remonter le temps pour lui dire, relis bien tes lignes, espèce de petit salopard, parce que sinon tu vas ruiner la soirée de Harry et donc la mienne, parce que j'habite sous son toit. Et d'ailleurs, très drôle, l'acteur à qui il va dire de relire ses lignes, c'est Vernon Dursley.
Oui. Mais en plus, du coup, il aide un acteur, mais il se trompe. C'est pas lui qui avait oublié ça, ses lignes. Donc après, il remonte dans le temps.
C'est très long.
Mais je trouve ça super intéressant, cette scène, parce que du coup, en fait, il va choisir de... Parce qu'en fait, du coup, pour contextualiser, le restaurant a lieu en même temps que l'avant-première de la pièce de théâtre. Et du coup, en fait, il choisit de d'effacer ce restaurant et de risquer de perdre cette interaction avec la fille qu'il vient de rencontrer, qui a l'air d'être la femme de sa vie au bout de 2 heures, pour aller aider... en avant son ami et son colocataire. Et du coup, je trouve que ça place encore une fois son personnage où en fait il va limite mettre en avant d'abord les intérêts des autres à la place des siens.
Alors, pendant la première partie du film, je suis d'accord. Après, il y a un turnover qui est intéressant, d'ailleurs.
C'est vrai, c'est vrai. On y reviendra. Mais du coup, ça finit que en fait finalement il la rate au restaurant, en fait il a plus son numéro parce que quand il a voyagé dans le temps, du coup c'est comme s'il l'avait jamais rencontré. Enfin, en gros, il se retrouve, sa meuf a disparu, quoi.
Exactement. Heureusement, il y a une expo sur Kate Moss, car nous sommes à Londres, et Londres, capitale non pas de la mode mais des expos. Et quelle aubaine, elle adore Kate Moss, donc du coup il va tous les jours comme un énorme stalker au musée. Cette scène, elle m'a mis dans un embarras profond, je dois bien te l'avouer.
Il a pas un travail, ce garçon, surtout.
Non, mais les avocats, ils bossent pas, c'est bien connu. Dédicace à mes cousines et ma belle-sœur, toutes avocates en formation. Mais du coup, il finit par la trouver, mais évidemment, elle ne se rappelle pas de lui. Et j'ai noté, oh là là, la gêne, mon Dieu, je suis.
C'était ah oui, là, clairement, on a une scène, c'est un bon petit trope du British Awkward, où c'est rien ne va, il sait pas du tout s'y prendre, il lui parle comme s'il se connaissait déjà, mais ils se connaissent pas, rien ne va, et surtout rien ne va aller parce qu'elle a un copain, en fait.
Oui, en fait, surtout à la fin de l'exposition, on se rend compte que elle a un mec, et elle a un mec chiant à la race qui s'appelle Rupert.
Désolée, c'est qui c'est Rupert. C'est encore un Greg.
C'est Greg
de La La Land.
Oh my god, c'est grave Greg. Oh, je le déteste, il est brun et tout, il souille, il a une petite écharpe. Bref, ils se sont rencontrés à une soirée chez Johanna, sa pote, donc la pote de Marie, qui était d'ailleurs au restaurant dans le noir quand ils étaient supposés y être. Et du coup, ni une ni deux, Tim, il fait, oh là, bah pas de soucis, hop, on y retourne. Donc il retourne à la soirée de Johanna, il y va et il invite Marie à dîner, lui, au lieu que ce soit Rupert qui l'invite.
Du coup, c'est rigolo parce qu'on en est au troisième meet cute quand même.
Ouais.
Parce qu'il y a le premier meet cute au restaurant, le deuxième meet cute au musée, le troisième meet cute à la soirée, et clairement le meet cute de la soirée, il se dit j'ai pas de temps à perdre, donc il arrive, et en fait il là pour le coup, il force un peu le destin quand même, on va dire.
Moi c'est ça qui me gêne un peu, et il y aura d'autres moments où il force un peu le destin, et en fait je trouve que c'est jamais très puni, entre guillemets, il n'y a pas de retombée sur leur histoire d'amour, mais bon, ça c'est autre chose, on en parlera à la fin. En tout cas, on apprend...
Vas-y. Oui, parce qu'en fait, il l'utilise. En gros, elle lui a dit tout ce qu'elle aimait chez Kate Moss. Il lui répète quasiment mot pour mot. Et la meuf, d'ailleurs, elle s'en étonne pas. Enfin, moi, si quelqu'un me répétait mot pour mot ce que je pensais de Kate Moss,
Taylor Swift,
je serais là. Waouh, voilà, de Taylor Swift. Ah, si quelqu'un pouvait me répéter toutes mes envolées lyriques bizarres sur Taylor Swift mot pour mot, c'est vrai que je me dirais peut-être que j'ai trouvé la femme de ma vie.
Imprimez-lui tous ses tweets et faites-lui en une robe, elle sera ravie. Et il décide donc d'aller au resto, et on apprend au resto le métier de Marie, qui est relectrice pour un éditeur. Et il lui dit cette phrase qui est fantastique, qui est « Ton métier, c'est de lire, mais c'est comme si ton métier, c'était de respirer. » Et j'étais là, c'est bien écrit, putain, c'est trop bien écrit.
Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a une nouvelle caution édition dans un. Heureusement qu'il y a les métiers de journaliste et éditeur et architecte.
D'ailleurs, Bridget Jones, ça fait les deux, journalisme et édition, donc c'est un peu la queen, la queen herbe quand même.
Mais du coup, la soirée se passe super bien. Mais en même temps, ils avaient... En fait, c'est ça que j'arrive à... Je suis un peu mal à l'aise de l'idée qu'il utilise le voyage temporel pour la récupérer. C'est-à-dire que du coup, il la sépare de son copain qu'elle avait rencontré dans le... juste avant, dans l'autre réalité temporelle. Faut suivre, hein, ça part un peu dans tous les sens. Mais en même temps, dès le début, ils ont eu vachement un lien. Et du coup, en fait, ils reforcent juste un peu le destin pour remettre en... Tu vois, je suis contente qu'il n'y ait pas de scène où, en fait, il dit un truc horrible qu'elle n'aime pas. Et il voyage dans le temps pour plus le dire. Enfin, tu vois, c'est plutôt juste qu'il se re-aide un peu de chance, mais il ne la force pas non plus, quoi.
Ouais. Je suis d'accord, et en plus de ça, il va dire des trucs un peu plus problématiques un peu plus tard, mais jamais envers, en effet, Marie. Et là, par contre, moi, il y a une scène qui me gêne, où du coup, à la fin du restaurant, ils s'embrassent, elle le ramène chez elle, etc. Et en fait, ils couchent ensemble pour la première fois, et c'est, comme ça se passe souvent, c'est pas ouf, parce que tu connais pas la personne, tu sais pas ce qu'elle aime, ce qu'il aime, etc. Et par exemple, il a du mal à enlever son soutien-gorge, etc. Et en fait, au lieu de garder ça en tant que première fois, il remonte deux fois dans le temps, parce que maintenant il sait ce qu'elle aime, et du coup c'est une première fois, genre la deuxième fois ils sont nus dans le lit, la troisième fois ils sont nus par terre, donc en mise en scène c'est hyper drôle. Mais je trouve que, enfin, aujourd'hui, véhiculer ce genre de truc, c'est drôle, hein, mais véhiculer ce genre de truc sur le sexe, je suis genre, oui bon, ça va quoi, enfin bon.
Non mais je vois complètement ce que tu veux dire, je suis complètement d'accord, parce que, enfin... Ouais, il y a toujours. Enfin, on peut pas s'empêcher d'être un peu dérangé quand même. Enfin,
oui, moi je suis un peu dérangé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu comme si c'était de la triche en fait. Et du coup, bah tout se passe bien. Et c'est hyper drôle. Hein. Vraiment, la mise en scène, encore une fois, je la trouve trop bien faite. C'est devenu un dieu du cul en trois fois. En plus, c'est un peu drôle. Mais voilà, c'est un peu injuste en fait d'être en couple avec quelqu'un qui a plusieurs chances de tout réussir pour l'autre personne. Voilà.
Oui. Après, ce que j'aime bien, c'est que du coup, à la fin de la troisième fois, et il est en mode, ah, je suis épuisée ou je sais pas quoi, et elle lui dit, ah bah, mon homme parfait, il tient juste qu'une seule fois. En mode, on peut repartir. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu drôle et tout, mais bon. C'est surtout, je trouve que, bah, le sexe et le consentement dans le sexe, c'est tellement des sujets qui sont complexes, surtout actuellement, ça fait l'objet de beaucoup de discussions, de beaucoup de débats, que, même un film qui a une petite scène rigolote autour de ça, on peut pas s'empêcher d'être un peu, voilà. Gêné d'une certaine façon.
Ouais.
Je suis assez d'accord avec toi.
Carrément. Enfin, on les voit évoluer. Cette scène, elle est trop chou. En gros, on les voit prendre le métro et sortir du métro.
Oh là là.
Plein de fois. Et donc, on comprend qu'il y a plusieurs mois qui se passent et qu'ils sont ensemble, qu'ils sont très amoureux. Je trouve ça trop mignon.
Avec la musique.
Oui.
Oh là là.
C'est trop trop chou.
Non, mais cette scène, c'est très très charmant. J'aime bien les petites scènes en accéléré comme ça où on pose une relation.
Ouais.
Tu sais, il y a aussi dans La La Land où il y a ça et
le
tout.
Le montage.
En général. Ouais, le montage, tout va bien, quoi. Voilà. On vit notre best vie.
Trop trop mimes. Et c'est la panique ensuite, puisque les parents de Marie arrivent d'Amérique par surprise. On n'a pas précisé, mais Marie est américaine, hein. C'est très important.
Parce qu'elle n'a pas l'accent british si charmant.
Pourquoi c'est la panique? Bah parce que déjà Tim le les connaît pas, et qu'ensuite Marie elle est là genre bon bah tu fais gaffe, tu dis pas tu dis rien sur le fait qu'on fait du sexe oral et tout, et en fait elle ouvre la porte et elle dit, et le premier truc que Tim dit à son père c'est genre non mais j'ai jamais fait de cunni à votre fille, et tout le monde fait ah, donc il fait excusez-moi, il part dans un placard et il recommence. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien, ça c'est drôle, tu vois.
Oui, c'est ça, c'est clairement, c'est là c'est rigolo, il utilise un peu le voyage dans le temps en mode... par exemple, c'est ça, j'aime bien, c'est qu'il utilise pas le voyage dans le temps pour aider forcément sa relation amoureuse quand il fait de la merde avec sa copine, mais plutôt quand il fait de la merde par exemple avec les parents, des trucs comme ça. Et mais du coup, ce passage avec les parents, je pense que c'est un peu pour montrer que leur relation elle prend vraiment un autre niveau, parce que du coup elle annonce à ses parents qu'il vit ici. Et c'est vraiment, ils sont bien installés, et ça va vraiment prendre un tournant très intense très vite, qui va être propulsé avec le retour de Charlotte.
Le retour de Charlotte, et oui, car en fait il propose à Rory d'aller au théâtre, donc ils y vont tous les deux voir une pièce, et dans le public il y a Charlotte. Et donc je note, il est très gênant, parce que en gros elle dit ah Tim et tout, ils se retrouvent machin, et elle dit voilà c'est machine, c'est mon ami. Et en fait lui il comprend en anglais girlfriend, en mode c'est sa meuf. Et du coup il est là ah mais Charlotte, du coup bah c'est ok que tu m'aies dit non il y a des années, parce que au final t'es lesbienne, donc c'était pas moi le problème. Et j'étais genre oh c'est un peu problématique, oh non.
Oui mais attends, pour sa défense il dit pas ça en mode genre ah c'est ok c'est parce que t'es lesbienne ou je sais pas quoi, il le dit plutôt en mode Ah ben j'ai l'impression que tout ce qui, qu'en gros mon drame d'adolescent au cœur brisé en fait vient de trouver sa réponse, tu vois.
Ouais, voilà.
Mais c'est bon. Un peu. Mais bon, de toute façon, dans cette scène, il s'en prend un peu. Enfin, c'est très malaisant pour lui parce qu'il fait n'importe quoi en fait.
Il
doit remonter dans le temps trois fois, quoi.
Voilà, c'est le bordel et au final, il finit par aller dîner avec Charlotte pour catch up, rattraper le temps perdu, etc. Ils vont dîner tous les deux et là, je me suis dit, oh putain, il va tromper Rachel McAdams, c'est sûr. Et elle lui propose de remonter dans sa chambre d'hôtel et tout, et il dit, je peux pas, j'ai un truc hyper important à faire. Et là, il court dans tout Londres et j'étais là. J'adore quand les hommes courent dans les comédies romantiques, ils ont forcément un truc à faire après, je trouve ça fou. Enfin, mesdames, courez aussi, j'adorerais encore plus, mais c'est surtout les hommes. Et en fait, il arrive chez lui et il demande direct au saut du lit sa copine en mariage.
Franchement, moi j'ai noté, moi tu me réveilles pour me demander en mariage, je te défonce.
Anecdote, une fois on était dans le même week-end avec Flore, un week-end entre potes dans une maison, et il faut savoir que je me couche un peu plus tôt que Flore, qui est un véritable petit oiseau de nuit, et je dormais paisiblement dans notre chambre, car évidemment nous sommes toujours logés ensemble, nous venons en paire, et je dormais paisiblement quand soudain Flore est rentrée en faisant un vacarme passablement bruyant à 5h du matin en disant « Ah, tu dormais ?» En faisant toutes ces affaires, nous avons ensuite eu une conversation où j'ai tenu une conversation sans savoir que je tenais une conversation car j'avais l'impression de dormir encore pendant environ une demi-heure. Puis elle s'est couchée, s'est retournée et m'a dit « Surtout, tu me réveilles pas demain. » Bam.
Non mais surtout, même, je t'ai même pas dit genre « Ah, tu dormais !» Je t'ai dit « Ah, t'es réveillée !»
Ah oui.
En mode genre, moi j'ai débarqué en mode genre, c'est moi qui très clairement viens de la réveiller, mais moi j'étais là « Ah, t'es réveillée ?» Et je t'ai lancé dans une conversation hyper deep pendant 30 minutes et après j'ai mis mes boules caisses et je t'ai dit « Surtout tu me réveilles pas !»
Donc voilà, le sommeil c'est important.
Dormir, c'est une de mes passions, donc si jamais mon futur mari ou ma future femme passe dans ce podcast et en train de tomber amoureux de moi en m'écoutant parler, en me trouvant tellement hilarante, note, s'il te plaît, chère personne, ne me demande pas en mariage quand je dors, c'est très important.
Voilà.
Mais Marie, d'ailleurs Marie, elle a pas l'air ultra ravie par cette situation.
Non, bah du coup il va remonter dans le temps, parce que puisqu'on a ça sous le coude, pourquoi ne pas l'utiliser?
C'est ça. Mais je tiens à dire quand même, on est passé assez vite dessus, mais il sort de son dîner avec Charlotte, où en fait on se rend compte que c'est un peu la fille qu'il a fantasmée toute sa vie, enfin pas toute sa vie, mais depuis qu'il l'a rencontrée, et que du coup en fait il va très loin, il la raccompagne jusque devant sa chambre d'hôtel parce que c'est un peu son. Tu sens que lui-même il est un peu perdu et qu'au dernier moment il se rend compte que c'est pas elle qui veut, c'est Marie. Je trouve que cette scène, en fait le film est un peu long et je trouve que cette scène apporte pas grand chose et je suis pas une grande fan du trope de ah en fait je me rends compte que j'ai toujours aimé l'autre personne maintenant que je suis devant le fait accompli qu'il y en a une autre qui s'intéresse à moi. C'est pas une préférence personnelle, mais c'est pas une de mes tropes préférées et je préférerais qu'elle soit pas spécialement dans le film parce que je trouve que ça alourdit un peu l'intrigue qui déjà a beaucoup beaucoup d'histoires de côté, tu vois.
Ouais, je suis assez d'accord et en plus je trouve que c'est assez cliché. Enfin, Margot Robbie, c'est en aucun cas sa faute, mais je veux dire, ils ont choisi une actrice blonde, sulfureuse, tu vois, un truc un peu en plus hyper sexualisé, etc. Et je dis pas du tout que c'est mal, au contraire, enfin, je veux dire, laisser les femmes être ce qu'elles veulent, mais ça ajoute au truc de dire. Ah bah cette féminité là, genre blonde, sexy, sulfureuse, c'est pas la vraie féminité avec qui il faut finir marié, c'est la petite libraire, enfin elle est pas libraire, la petite éditrice brune avec des petites lunettes et tout. Enfin, je trouve que ça véhicule un cliché en plus qui est dommage, tu vois.
Oui, je suis d'accord, c'est clairement ça les met un peu en opposition, c'est un peu en mode ah là c'est cette fille que tu fantasmes et que aussi au moment où tu penses que peut-être tu pourrais l'avoir, tu t'en rapproches très dangereusement. Et en fait surtout un truc, je trouve que ça va pas du tout avec le personnage de Tim d'aller aussi loin que de raccompagner Charlotte devant sa chambre.
Ouais.
Où on dirait un moment presque qu'il hésite à rentrer, alors que tout le reste du film, on a bien vu que genre il était hyper gentil, qu'il était pas du genre du tout à tromper, qu'il était complètement in love de Marie. Donc je trouve qu'en plus ça ne rajoute un peu rien et c'est même pas très logique. Donc je suis pas hyper fan de ce passage.
Ouais, moi non plus. Enfin, écoute, ça y est, on se lance dans des grandes analyses ou quoi ? J'adore.
C'est ça.
Vraiment, chaque épisode, de plus en plus, on est là genre. France Inter. Donc c'est du coup
à la fois on se perd de plus en plus mais à la fois on analyse de plus en plus.
Oui, ah bah bien sûr, bah c'est ça qui est intéressant. Mais Marie dit oui, et c'est ça l'important, puisqu'elle dit oui, elle dit « Ah, c'est mignon, t'as mis de la petite musique et tout », et en fait, on se rend compte que derrière le rideau qui sépare la chambre du salon, il y a un groupe de musique. Donc en fait, il a pas mis de la musique, il a fait venir des musiciens, et elle lui dit « Merci de pas avoir fait quelque chose de grandiloquent, etc. » Et lui, là, « Ah, oh, bah t'inquiète, tu sais, on est super simple et tout. » Et il sort par le rideau, il fait « Rentrez chez vous, musiciens !» Et je trouve ça très drôle, c'est très mignon. On arrive au moment que tout le monde a vécu avec les parents de son compagnon, sa compagne, c'est la rencontre. Alors Flore, il faudrait enchaîner car on a un podcast.
Pardon, mais il y a eu un blanc. Écoutez, j'ai cru que ça avait peut-être coupé. Excusez-moi, mais faire un distanciel, ça complique un peu. Et en fait, on vous révèle les anecdotes des derniers tournages. On est juste au téléphone, donc je ne vois pas le visage de Clara.
Oui.
Donc je ne peux pas savoir en fait si elle fait des pauses parce qu'elle attend que je complète ou s'il y a un problème.
Parce que vous, du coup, le problème de la campagne, c'est que l'internet n'y est pas folichon, on va dire.
Non, voilà. Bon, donc, comme tu le dis si bien, il faut que je complète. Donc, elle rencontre les parents. Elle rencontre les parents parce qu'ils annoncent qu'ils vont se marier et ils annoncent aussi qu'elle est enceinte.
Ça fait beaucoup. Hein. Moi, j'étais là, ouf, le dîner de folie.
Mais ils sont à fond. On recroise un peu aussi Kit Kat, la sœur de.
Ouais.
De Tim qui, on a compris, c'était un peu un esprit libre, mais un peu inadapté aux difficultés de la vie. T'as l'impression, genre, elle ouais. est très, tu sens que c'est une fille très sensible, très perchée et qui a pas l'air d'avoir les meilleurs goûts en termes de garçon aussi.
Ça se voit qu'elle va pas bien. Ça, c'est sûr.
Ouais, mais à ce moment-là, Tim, lui, il est un peu dans sa baisse vie, clairement. Et du coup, on a ensuite direct, je crois que quasiment direct après, on passe au mariage.
Ouais, très rapidement, on passe au mariage et on se rend compte qu'au départ, elle avait dit non pour mettre une musique, la musique qu'il voulait pour qu'elle traverse l'hôtel, enfin qu'elle aille jusqu'à l'hôtel. Et au final, elle a mis la musique qu'il voulait, donc c'est trop beau, ils sont adorables, tout le monde est chiale et tout.
Elle a tellement une belle robe.
Oui, elle est en rouge d'ailleurs.
Oui. Et en plus j'adore parce que c'est une catastrophe météo le mariage.
C'est l'Angleterre, hein. C'est l'Angleterre.
C'est l'Angleterre.
Les gars.
Mais du coup j'aime bien parce que je trouve ça hyper réaliste vu où ça se passe. Mais du coup c'est rigolo durant le mariage. En fait il utilise un peu aussi le voyage temporel pour essayer littéralement tous les discours de témoins. C'est quoi que c'est un best man tous les meilleurs témoins qu'il pourrait avoir parce qu'il a à la base il avait nommé Rory puis après ça se passe pas très bien donc il nomme Jay, son meilleur ami, puis du coup après il nomme son père. Du coup c'est rigolo, il y a un peu ces scènes d'accumulation où on voit tous les speeches possibles et c'est vrai que c'est quand même rigolo d'avoir de pouvoir voyager dans le temps. Je me dis c'est vrai que ça peut être utile parce que tu peux vraiment voir tous les différents choix que tu prends, qu'est-ce qu'il pourrait te donner comme solution.
Et en plus il y a aussi un truc trop drôle, c'est qu'on oublie que le père il peut voyager dans le temps, mais le père il dit un truc pendant son discours qui est le dernier et il dit non ça me plaît pas, et du coup lui-même remonte dans le temps pour dire quelque chose de différent et je trouve ça archi drôle. En plus c'est super mignon, il dit un truc sur son frère et tout, enfin sur du coup l'oncle qui est un peu dans sa bulle, donc trop chou. Mais moi j'ai mis je le sens, la sœur elle va se prendre un sacré truc, donc Kit Kat. Et pour l'instant Tim est trop concentré sur sa vie de couple pour faire attention aux autres, et c'est donc là pour moi qu'il y a un petit shift dans le scénario.
Ouais, mais en même temps je trouve ça il est plus concentré sur son couple, mais c'est mignon aussi un truc que par rapport au voyage dans le temps, tu sais, il dit à Marie est-ce que t'aurais préféré qu'on se marie un jour où il pleut pas, et lui il était prêt à revivre tout le mariage juste un autre jour où il pleut pas. Là c'est un peu aussi un shift je trouve où il voyage, il le dit en voix off je crois, en fait il voyage de moins en moins dans le temps à ce moment-là de sa vie. Parce que c'est un peu en mode, mais en fait, j'en ai pas besoin, ma vie est parfaite. Mais en effet, la vie n'est pas parfaite pour tout le monde, puisque pour Kit Kat, ça commence à sentir un peu le roussi.
Ça sent un peu le roussi. Alors, il faut préciser que du coup, ils ont eu leur bébé, Marie et Tim. Elle s'appelle Posy, c'est une petite fille, trop mignon. Ils ont acheté une maison, blablabla. Et on est un an plus tard, c'est l'anniversaire de Posy. Et en fait, Kat a disparu. Donc, moi, j'ai mis, je le sentais, oh punaise. Et en fait, on se rend compte qu'elle a eu un grave accident de voiture en état d'ébriété, et c'est son compagnon qui vient à la maison de Tim lui annoncer, son compagnon qui, on le devine, n'est pas quelqu'un de très bonne facture.
Mais et du coup là il utilise directement le voyage dans le temps pour éviter l'accident, mais c'est un peu aussi le moment où on se rend compte que le voyage dans le temps ça ne peut pas tout sauver, ça ne peut pas tout aider. Puisque
bah alors attends, il y a pas mal de scènes d'abord avant le petit problème, on va dire.
Bien sûr, mais non, mais ce que je veux dire c'est que le enfin très vite on voit bien qu'en fait, enfin moi je trouve que tu le vois directement en tant que spectateur.
Oui.
KitKat, c'est pas OK, c'est bien de lui éviter son accident de voiture, mais en fait ça c'est pas ça qui va l'aider en fait.
Non, c'est clair. Et pour l'instant du coup ce qu'ils vont faire ensemble, c'est que Tim va lui dire je peux voyager dans le temps, viens, je vais te montrer. Et il remonte à la soirée du Nouvel An des 21 ans. Et en fait, on se rend compte qu'à cette époque-là, elle était avec son compagnon actuel, qui est donc quelqu'un d'abusif. Et elle largue le mec abusif en lui disant « Non, mais je serai jamais avec toi. » Je sais plus, je crois qu'elle lui jette un truc. Elle lui met un pain, je crois. Et en fait, après, il retourne dans le présent et on se rend compte qu'elle finit avec Jay, donc l'ami d'enfance de Tim, le petit roux, là. Et on se dit, oh pétard, tout va bien, il est trop mignon, elle est aimée, elle est pas abusée, elle est pas alcoolique, tout va bien. Et en fait, tout ne va pas bien, car en rentrant à la maison, Tim se rend compte que bah, Marie, elle est toujours là, mais leur bébé n'est plus Posy, une petite fille, c'est un petit garçon.
Oui, alors là, c'est le moment du film où, encore une fois, il faut un peu faire la suspension volontaire de crédulité et pas essayer de trop comprendre toutes les histoires d'effets papillons et de voyages temporels et tout. Faut juste prendre ça comme acté, c'est comme ça que ça marche. Et que, en gros, en fait, on comprend que si tu voyages dans le temps avant le moment clé où tu mets enceinte la personne avec qui tu es, en fait, vu que ton sperme c'est un instant T, un moment T, une ovule T, etc., tu auras juste un enfant différent, et que du coup il ne peut pas faire ça. Mais alors de base, moi je trouve que son idée de remonter dans le temps pour qu'elle ne rencontre pas Jimmy, c'est une idée complètement foireuse, parce que attends, ça veut dire que en fait elle n'a jamais eu cette relation, mais elle s'en souvient quand même ou pas? Et est-ce que c'est pas horrible de se souvenir d'une relation que en même temps t'as pas vécu, enfin.
Ouais, ouais, mais c'est le problème du voyage dans le temps aussi, c'est que ça laisse vachement de blank spaces, comme on dit.
Ouais, comme, c'est pas hyper.
Comme disait Taylor Swift.
Notre queen à tous, surtout à moi. Mais du coup, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, s'il veut aider KitKat, c'est pas comme ça qu'il faut procéder en fait.
Voilà, donc il préfère refaire vivre à sa sœur l'accident de voiture. Heureusement, elle n'y perd pas la vie, hein, du coup. Mais par contre, après, avec Marie, ils vont la voir et ils lui disent, écoute, il faut larguer Jimmy, c'est horrible ce qu'il te fait, etc. Donc elle a quand même vécu l'accident de voiture, mais ça va aller. Et grâce à Marie et Tim, elle va quitter Jimmy, et Tim lui suggère même d'aller voir son pote Jay, parce que visiblement ça marchait bien entre eux dans une autre réalité. Et toutes ces affaires, ça a donné une envie d'enfant à Marie.
Oui, et ils ont du coup un deuxième bébé.
Un petit garçon.
Donc, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs.
Et je crois qu'ils n'ont pas de nom, les deux derniers là, après.
Ouais, mais bon, très chou. C'est un peu le moment où tu te dis, ah là là, très mignon, c'est intéressant. On voit que le voyage temporel ne peut pas résoudre aussi tous les problèmes, que machin, qu'il faut qu'il soit là juste en tant que frère et en tant qu'ami, blabla. Mais on va rencontrer un autre problème que le voyage temporel ne peut aussi pas résoudre. Et c'est le moment où le film va shift très rapidement.
Oh là là, ça va aller très vite. Vous riez.
C'est le moment où ça va commencer à comment ça spirale.
Et c'est le moment de spiraler, sinon je spiralais.
C'est le moment où, si vous avez écouté tout cet épisode de podcast sans avoir vu le film, et parce que voilà, et que ce qu'on vous raconte vous intéresse, vous plaît, vous dites que vous aimeriez le film, je vous conseille de mettre en pause cet épisode et vraiment de voir le film, parce que c'est pas une scène qui va être, enfin ce qui va se passer dans le film, c'est pas un effet surprise de malade ou quoi, mais c'est juste, je trouve ça très beau et très touchant, mais je trouve que c'est mieux pouvoir l'expérimenter sans que ça soit nous qui vous le racontons, parce que même si on est hilarante, la vérité est qu'on est peut-être pas forcément les meilleurs conteurs toujours.
Bah Richard Curtis le fera mieux que nous, hein, c'est évident.
Malheureusement, comment vous voulez qu'on soit en compétition avec lui?
Ah oui, non, mais ça c'est impossible, hein. Mais en fait, tout commence comme une soirée normale dans un couple, c'est-à-dire que Marie a rendez-vous pour le boulot et elle devait amener un manuscrit, parce qu'on rappelle qu'elle travaille dans l'édition, et en fait Posy a détruit le manuscrit et en fait elle l'a mis dans le déchiqueteur, ce que je
trouve ça hyper drôle. Mais tornade, c'est une tornade.
Donc elle a genre 4 ans et elle met le manuscrit de sa maman dans le déchiqueteur, elle aurait pu se faire grave mal et tout, mais bon, enfin bon, voilà. Donc du coup ils sont en train de s'engueuler, ils sont là, bon c'est le bordel, tu pouvais pas surveiller la petite, nanana, et en fait il y a un coup de téléphone qui vient briser cette dispute, et c'est Marie, la maman de Tim, qui s'appelle aussi Marie, on le rappelle, qui les appelle et leur dit il faut que vous veniez immédiatement. Et on se doute de ce qui s'est passé. Moi, je me doutais très bien parce que le père, en fait, on nous attache au personnage tout le long du film. Tout le long du film, à chaque putain de seconde d'écran, on nous dit regardez comme il est attachant Bill Nighy. Et après, laissez-moi vous dire, on va me crever les yeux. On va crever les yeux.
On te donne un truc et on le reprend l'instant d'après.
Mais on le reprend et on met une gifle, genre.
Ah ouais, oui. C'est clairement, genre, il y a zéro respect à ce moment-là. Bill Nighy, le papa, a un cancer.
Yes.
Et alors, il y a cette scène aussi que... En fait, il va y avoir deux enchaînements de répliques que j'adore, qui, pour moi, montrent vraiment à quel point ce film est capable de jouer sur plusieurs registres, ce qui n'est pas toujours facile dans les rom-coms, ou dans n'importe quel film d'ailleurs. C'est, tu sais, quand ils ouvrent la porte, la mère, elle dit cette phrase que je trouve trop belle et super touchante. Elle dit « Je ne suis pas très intéressée par une vie sans ton père. »
Oui, oh là là.
Je trouve ça trop touchant.
Et littéralement,
la scène d'après, le père fait une blague en mode genre « Non, mais ta mère serait jamais sortie avec moi si j'avais pas été un fumeur aussi sexy. » Aussi sexy. Et du coup, je trouve que c'est cette espèce de décalage, genre à la fois hyper touchant, mais genre drôle, mais triste.
Bah, c'est l'anglais, c'est la rom-com anglaise.
Ouais, la force des anglais. Mais du coup, le papa a un cancer des poumons qu'il ne peut pas... il peut pas revenir dans le temps, en fait... Donc il a beaucoup fumé, voilà, quand il était... Voilà, exactement. Et en plus, c'est dur parce que, tu sais, aussi, on se rend compte qu'ils ont déjà eu cette conversation.
Ouais, ouais. En fait, le père a déjà remonté dans le temps pour avoir cette conversation avec Tim. En fait, c'est la deuxième ou troisième fois, on ne sait pas, qu'il l'a avec lui. Et il lui a dit... il dit « Comment est-ce que j'ai réagi la première fois ?» Et il lui dit « Bah, tu t'es effondré, t'as pleuré, etc. » Et donc là, ils se font juste un espèce de câlin. Et j'ai noté genre de pleurer au sol et ensuite deviner ce que j'ai fait. Et ben, j'ai pleuré au sol, putain. Alors là, ce qui vient, mais ça m'a éclaté.
Mais en fait, je trouve ça trop émouvant déjà. Ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, on se rend compte que le père, on le sait depuis le début, il a arrêté de travailler très jeune. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'il allait avoir un cancer et qu'il a remonté dans le temps pour pouvoir démissionner jeune et profiter de ses enfants toute cette vie. Du coup, déjà très très émouvant. Et ensuite, là, on rentre dans des émotions. Là, c'est l'émotion partout. On a le petit passage où son père lui donne son tips number one sur comment être heureux.
Oh, ah là là.
Revivre tous les jours deux fois.
Donc en fait, on est très émis. Oh là là. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'on va avoir une journée type de Tim. Donc il va s'acheter un truc à manger, mais il n'a pas le temps de sourire à la vendeuse parce qu'il est avocat, qu'il est occupé. Ils ont une réunion, le mec parle mal à son pote Rory, il dit rien. Ensuite, ils vont dans une cour de justice et au final, ils gagnent le procès. Donc ils sont soulagés, mais il n'a même pas le temps d'être soulagé tellement il est stressé. Et en fait, il va revenir dans le temps et revivre cette journée, mais en sachant que tout va bien se passer, il va pouvoir profiter de chaque putain de seconde. Et c'est ça la leçon!
Mais oui! Non, mais rien que d'en parler, ça m'émeut aussi.
Non, mais ça m'émeut beaucoup.
Ouais, on est vraiment des putains. On est très bon public ici. Non, mais c'est juste qu'encore une fois, ce film est fait avec tellement, je trouve, de charme et de délicatesse et d'humour que genre. Et en plus, mais c'est tellement cliché. On dirait un article de mon Skyblog de quand j'avais 13 ans. Mais c'est vraiment ça, la vie. C'est genre, regardez, tu sais, quand ils arrivent en retard dans la cour et qu'ils s'arrêtent pour regarder le plafond qui est décoré, qui est trop beau, et qui dit, mais il faut voir toutes ces belles choses et tout. Et ensuite, donc déjà là, tu commences un peu. Moi, j'ai noté, en vrai, c'est une belle leçon, je suis un peu émue, MDR. Et ensuite, on arrive dans le dark.
Alors,
parce qu'il dit, il y a des jours qu'on ne veut vivre qu'une fois.
Et là, je savais mais pourquoi j'avais signé. Là, j'étais là, oh putain, ça y est, ils vont le faire. Alors, attends, d'abord, il y a. Ils ont un troisième enfant. Entre le jour après t'as mangé là, et à la cour de justice et ce qui va suivre, ils ont un troisième enfant.
Ah mais oui, je l'ai même pas. Non, attends, non, meuf. Non. D'abord, il y a l'enterrement et ensuite, elle veut un troisième bébé.
Ben non, justement.
Ben non,
si, c'est bon.
Souviens-toi.
Ah oui, c'est bon.
C'est parce que moi-même, je me suis dit, dis donc, elle y va vite après l'enterrement. Non, enfin, moi, je laisserai peut-être un petit peu.
Pardon. Mais... Donc, en tout cas, le père est mort. Hein.
Là, Merci. Là, voilà.
Ouais, c'est un mercurochrome qu'il fallait enlever rapidement. Voilà, je l'ai arraché.
L'enterrement, non mais c'est super. Enfin bref,
c'est tellement triste. En plus, c'est horrible parce qu'ils sont tous là et la mère, elle dit un truc genre bon bah écoutez, on va vivre cette journée comme on va la vivre quoi. Et c'est genre terriblement triste. Et en fait, ce que fait Tim avant d'emmener le comment on appelle ça, le cercueil et d'aller à la cérémonie, c'est qu'il va voir son père en remontant dans le temps. Et il dit à son père, là, je suis à ton enterrement. Et il est là, genre, ah bon, c'est comment? Comment va ton oncle? Est-ce qu'il le vit bien? Etc. Enfin, c'est tellement émouvant. Moi, j'étais
mais
là.
Mais oui, ça sonne quand il rentre et que son père fait une blague et qu'il voit sa tête, il fait, ah, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Enfin, genre, en plus, du coup, bon, encore une fois, c'est un film qui a pas trop le temps d'explorer tout ça parce que ça créerait beaucoup de complications. Mais ça veut dire qu'en fait, tu peux revisiter quelqu'un qui est déjà mort, mais que, du coup, quand tu le revisites, lui, il a conscience qu'il va mourir. Enfin, genre, c'est un peu, bah, c'est complexe quand même comme situation.
Jusqu'à une certaine extent, puisque, après l'enterrement, qui est atroce, où j'ai pleuré sa race, Marie dit qu'elle veut un troisième enfant, en effet. Et donc, ils en font un. Et en fait, le problème,
mais attends, c'est dur.
C'est que dur. Tim,
il en fait un, mais
ouais, c'est dur de prendre la décision. Mais pourquoi? Parce que s'il fait un troisième enfant, il ne peut pas remonter dans le temps avant la naissance de cet enfant-là, ce qui veut dire qu'il ne pourra plus jamais voir son père.
Voilà, donc remontant. Lui-même, il hésite beaucoup. Enfin, il hésite parce qu'il se dit, en fait, il va falloir que je fasse un choix. Soit en fait je choisis le voyage, enfin en gros soit je choisis mon père entre guillemets, le voyage temporel, soit je choisis ma famille et j'ai ce que je veux qui est genre une grande famille et enfin
c'est dur. Du coup il va voir son père une dernière fois.
Oh non, arrête.
Et là, c'est la maxi chiale.
Et là, c'est la scène qui... Tu sais, quand j'ai revu le film pour le podcast, je me suis dit... Non, mais en vrai, je pense pas que je vais pleurer cette fois-là. Parce que vraiment, je l'ai vu. Je crois que ça faisait au moins la quatrième fois que je voyais ce film. Bon, lol, j'étais vraiment... J'y ai cru, vraiment. Mais cette scène me brise émotionnellement à chaque fois que je la vois. C'est genre... Juste, il revient dans le temps et il explique en gros à son père... Bah en fait là c'est la dernière fois que
je te vois.
Que je te vois. Et son père il est en mode ah ok d'accord. D'accord. Et toi c'est là oh non c'est horrible.
Et du coup son père à lui, donc Bill Nighy, décide de, comme son enfant va naître et qu'il pourra plus remonter dans le temps, de faire lui une remontée dans le temps avant la naissance des enfants de Tim pour faire une dernière balade sur la plage avec lui quand il avait genre 9-10 ans. Et là je chialais mais genre oh mais à sanglots. On a saigné la boîte de mouchoirs, il n'y en avait plus.
Mais il y a la musique, il y a l'océan, enfin la mer, il y a le papa. Alors après, moi j'ai envie de te dire encore une fois, heureusement qu'on pleure, parce que je suis désolée, mais moi je piche rien à cette histoire de voyage temporel, parce que ça veut dire que c'est le père qui est déjà mort, qui peut voyager temporellement, parce que je crois qu'il fallait pas retourner avant la naissance d'enfant.
Ben oui, mais de tes enfants à toi.
Ouais, mais c'est toi qui l'as fait. Team.
Mais il remonte pas. Mais est-ce que le team ne enfant... remonte pas dans le temps? Ben non, le team enfant, il est juste là. Oh, il fait une balade avec son père.
C'est ah, tout. Tu crois qu'il a pas la conscience de...
Bah oui, il dit rien. Il dit juste genre, oh, it was cool, dad, ou un truc comme ça, en mode, ils ont fait une balade, tu vois. Donc c'est ça qui est horrible, c'est que le team enfant n'a aucune idée de ce qui va se passer.
Oh my god, c'est encore pire.
Elle va repleurer.
Non mais voilà, bon moi en fait voilà, si vous me connaissez vous savez que moi j'aime bien essayer de comprendre toutes les aspects possibles de quelque chose même scientifique qui m'échappe complètement. Du coup là j'étais là mais je comprends pas quelle est la réalité alternative dans laquelle est... alors qu'en fait la vraie vie c'est que juste là dans ce moment il faut chialer, la scène voilà. C'est pas fait pour comprendre, c'est juste c'est l'émotion
et quelle émotion.
Et c'est vraiment super émouvant. Mais ensuite, on est quand même content parce que malgré
la cette chiale. Scène,
après, on la chiale, on a un peu de bonheur parce qu'on a Kit Kat. Ça, c'est le moment où je me rends compte que j'ai beaucoup. Je devais vraiment être en larmes parce que j'ai pris des notes un peu n'importe comment.
Moi, j'ai plus rien écrit.
Sérieux ?
J'ai juste écrit il ne remonte plus dans le temps, il profite de chaque jour car c'est unique.
Mais alors moi je notais Kit Kat, donc la sœur a son happy ending, sa fin heureuse avec
Jay,
donc ça on est content quand même. Ouais. Et du coup c'est bien parce qu'en fait elle l'a eu par elle-même en apprenant par elle-même de ses erreurs et c'est ça qui est beau. Et du coup c'est l'ultime leçon de Tim, c'est il décide de ne plus vraiment voyager dans le temps parce qu'il décide... Est-ce que tu pleures ?
Non, j'ai fait un rot.
Oh mon dieu, mais quel chaos ce podcast.
Et oui, vous ne le saviez pas, mais on camoufle énormément de ronds
dans cette histoire. Non, tous les gens qui me connaissent savent ce que je peux rôter sur commande. C'est un de mes nombreux forces et faiblesses à la fois.
Toutes nos confusions.
Mais vous savez quoi, il faut qu'on rigole un peu parce que vraiment ce film à la fin, moi je suis pas dans le bien, donc il faut qu'on mette un peu de légèreté. Non mais je trouve ça hyper beau parce que c'est vraiment une ode à profiter de chaque moment et il le dit un peu en mode la vie a plus de valeur quand on vit chaque jour comme si on était normal. Et d'ailleurs c'est drôle parce que vraiment je trouve que cette fin ça a vraiment une pure vibe Love Actually. Hein.
Oui,
première scène de Love Actually, c'est Richard Curtis. Et ma dernière note du film, c'est la pandémie me monte à la tête, voir des gens heureux dehors et tout, ça m'émeut, je pleure. Donc là, c'est la scène où, parce que c'est toute une scène où il y a des espèces de petits montages où on voit des gens qui rigolent dehors, qui vivent leur best vie. Et moi, ça m'a suffi en fait, j'étais en
larmes. Ah ouais, c'est terrible.
Vous êtes un parfait inconnu. Parfait inconnu.
Ouais, ok, c'est une histoire de fou.
Ouais, un peu.
D'accord. Au revoir, Marie.
Au revoir.
Dis-moi, Flore, toi qui es la grande prêtresse de About Time, qui a proposé ce film et ce trope, quelle est ta conclusion, ton analyse finalement de l'utilisation du voyage dans le temps dans la rom-com?
Ma conclusion, c'est que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir une rom-com avec un élément surnaturel, parce que c'est assez rare.
Qui n'est pas un vampire.
Voilà, qui n'est pas un vampire. Non, parce que déjà, les vampires, ça existe, mais en fait, enfin, déjà, à partir de là, Edouard Cullen est quelque part sur cette planète, je le sais, puisque c'est mon âme sœur. Non, je rigole, c'est évident, ce mec est un perfect man. Non, mais j'espère que si cet homme existe, c'est qu'il est en prison pour stalkage, abusé. Non, mais écoutez, plus sérieusement. Il était temps. En fait, moi, j'aime bien parce qu'il y a un élément surnaturel, mais qui est utilisé, je trouve, à juste dose et à genre bon escient. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a pas trop. Ça reste limite normal. En fait, on dirait presque que c'est normal. Ce qui se passe, et je trouve que c'est souvent utilisé pour des ressorts plus comiques. Ou des ressorts de chialade. Et ça, j'adore les ressorts de chialade.
Moi, j'adore chialade.
Et je trouve qu'il y a quelques moments, en effet, où quand il l'utilise pour avancer sa relation amoureuse et pour aider sa relation amoureuse, je suis parfois un tout petit peu gênée. Mais je trouve quand même que le film a un bon propos et un bon essai autour du voyage dans le temps qui est, c'est pas ça qui résout ça, c'est pas comme ça que tu fais tomber quelqu'un amoureux de toi. Et du coup, je trouve ça assez charmant et je trouve ça hyper attachant. Et en fait, je me rends compte que la trope bouger dans le temps, c'est une que j'aime bien parce que j'ai beaucoup aimé avec Lara, on l'a toutes les deux beaucoup aimé. Mais un film que si vous n'avez pas vu, on vous recommande vraiment chaudement, qui s'appelle, c'est Palm Springs.
Ouais, non Palm Springs. Ouais. On fera peut-être un comment si vous êtes sage.
Voilà, qui a un peu une revisite du jour, c'est le jour de la marmotte.
Oui, c'est un jour sans fin, mais oui, c'est le jour de la marmotte.
Voilà, où c'est un jour sans fin, où c'est un jour qui se répète dans un mariage, c'est aussi une comédie romantique avec Adam Sandberg.
Avec Andy Sandberg.
Andy, voilà. Que je trouve qui est super bien aussi. Je trouve que c'est attachant, c'est rigolo, ça marche bien. Et je trouve vraiment que ce film a beaucoup de charme. Il y a, comme je l'ai dit durant l'analyse, quelques scènes que j'aime un peu moins, que je trouve qui méritaient pas forcément d'être là, et qui apportent pas grand chose à l'intrigue et qui juste alourdissent le film. Mais je trouve que de manière générale, comment est utilisé le trope tout le long du film, c'est quelque chose qui fonctionne et qui me plaît. Et franchement, quand j'avais trop peur qu'elle ne l'aime pas, parce que vraiment je pense que c'est une des rom-com, je l'ai découvert cette rom-com, je pense qu'il y a 5-6 ans, et c'est l'une de mes rom-com préférées de ces dernières années que j'ai vues. Et quand je l'ai vu, je me souviens, elle m'a dit waouh, ça fait longtemps que j'avais pas eu une rom-com qui m'avait autant plu. Et du coup, j'avais vraiment peur que Clara ne l'aime pas parce que je me disais, j'ai pas envie qu'on se dispute pendant 2 heures de podcast sur un film que, genre, moi je trouve si touchant. Du coup, quand elle l'a aimé, j'étais là, oh mon dieu, d'où Jésus. Même si je sais que tu as quand même quelques petites critiques.
Oui, alors j'ai quelques petites critiques et il faut savoir qu'avec Flore, on a un seul sujet de dispute qui est vraiment intense mais qui existe, qui est que une série rom-com préférée, c'est 500 jours ensemble que je n'aime pas. Donc voilà, il ne fallait pas qu'il y ait un autre film qui s'ajoute au tableau. Fort heureusement, ça n'a pas été le cas. Toutefois, j'ai en fait les mêmes réserve que toi, tout simplement, les moments qui m'ont gênée, déjà, overall, dans la grande image, j'ai vraiment trouvé que c'était génialissimement mis en scène, Le fait que la voyage dans le temps ne soit pas justement mis en scène, c'est génial, parce que ça dérange pas la mise en scène hyper réaliste qu'il y a, ça dérange pas le truc hyper quotidien. En fait, on a l'impression de faire partie de cette famille, on a l'impression d'être dans leur quotidien, etc. Donc ça marche hyper bien, c'est ancré dans leur réalité, donc ça devient ancré dans la nôtre. Et en fait, moi, mon problème, c'est déjà le traitement de la fémininité dans ce film, que je trouve un petit peu biaisé, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, est-ce que les seules filles bien, c'est les filles comme Kit Kat, c'est-à-dire les filles à sauver et qui s'en tichent de mauvais garçons, ou les filles comme Marie, qui sont les filles intelligentes, brunes, discrètes, etc., et que les filles comme Margot Robbie, bah au final, elles veulent juste pas vous serrer quand vous êtes un petit blanc bec, et pour finir par vous ramener dans leur chambre d'hôtel des années plus tard. Je ne pense pas que ce soit une dépiction très logique de la réalité et très propre à ce qu'est la vie en général. Et je trouve que ça sert pas à la cause féminine. Mais souvent, on l'a déjà dit, dans les films de Richard Curtis, les femmes sont moins bien représentées que les hommes.
Oui,
c'était déjà le cas dans Love Actually avec le personnage de Nathalie. Mais toutefois, je trouve que vraiment le trope est génial. C'est utilisé pour nous faire rire aussi. Pas que pour la maxi-chiale comme on l'a dit tout à l'heure, donc pour moi ça marche d'enfer. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a une direction d'acteur qui est top, parce que c'est des acteurs connus, mais c'est pas un Leonardo DiCaprio, quoi. C'est des gens qui pourraient être tes voisins. C'est des gens qui n'ont pas une beauté folle, enfin, à part, bon, voilà, le trope du personnage de Margot Robbie que j'apprécie un petit peu moins. Et le seul autre truc que j'ai à dire sur ce trope-là, c'est que jamais il y a une retombée négative pour Tim d'avoir utilisé le voyage dans le temps, alors que des fois il l'utilise à des fins qui sont égoïstes, voire même un peu dangereuses au niveau du consentement. On a parlé du sexe, etc. Et je trouve qu'il n'y a pas trop de retombées là-dessus, sur cette leçon, etc. Le seul truc négatif qui arrive à Tim, c'est que sa sœur prend un accident de la route et son père décède, mais lui, il est épargné de tout, en fait. Et son personnage n'a même pas de rédemption à aller chercher lorsqu'il utilise mal son pouvoir. Donc moi, c'est mon seul petit bémol où je suis genre iiih, mais peut-être que si le film avait été fait en 2021, ça aurait pas été la même confiture. Donc voilà.
Ouais. Mais je suis assez d'accord avec toi, je trouve que c'est pas c'est un défaut du film. Je suis grave d'accord que t'aurais aimé qu'il y ait une scène où genre ça se retourne un peu contre lui.
Ouais, voilà.
Parce que au final, il y a pas forcément de conséquences à ses actions, et alors que je trouve que c'est un film quand même qui touche à des sujets assez intenses et assez dark, genre bah voilà, le décès du père et tout, ou la Kit Kat et sa relation avec son compagnon, etc. Donc je trouve que c'est un film qui aurait pu avoir les épaules pour toucher un peu, que ça aurait pu lui retomber dessus, cette histoire de voyage temporel.
Ouais.
Et c'est vrai que ça ne le fait pas. Et je trouve que c'est un peu décevant. Mais en effet, je pense que, et je suis complètement d'accord avec ce que t'as dit, le traitement des personnages féminins. En fait, il y a plusieurs personnages féminins qui sont sympathiques, mais qu'en fait, on ne voit pas tant que ça. En fait, par exemple, j'aurais beaucoup aimé que le père soit en fait la mère, par exemple.
Enfin,
que l'un des d'autres personnages principaux, en fait, Kit Kat, en fait, on la voit pas tant que ça, et on la voit beaucoup par le prisme de Tim.
Triste, en plus. Enfin, on ne la voit que comme une personne en détresse jusqu'à la fin.
Ouais. Ou alors au début, elle est très heureuse et très chépère, mais du coup, elle a pas vraiment non plus, enfin, de.
Oui, voilà, enfin, elle a pas de profondeur,
mais voilà, il y a quelque chose. Exactement. Moi, un truc que je trouve hyper surprenant, c'est de te dire que il est en couple avec Marie, il est marié avec elle, et elle ne sait pas qu'il peut voyager dans le temps. Moi, je trouve ça ouf, t'imagines?
Ouais.
Genre, tu fais ta vie avec quelqu'un et tu lui dis pas ce truc le plus important.
Bah, j'ai pas encore dit à ma meuf, moi, donc voilà, écoute, chérie.
Ouais, oui, non, mais je comprends ça. C'est pas facile toujours à amener sur la table, mais bon, moi, je trouve que c'est quand même un truc. T'as trois enfants avec quelqu'un, tu finis peut-être par lui dire.
Ouais.
By the way, chérie, je peux voyager dans le temps. Mais je pense que le film, encore une fois, en fait, le voyage dans le temps, c'est un truc par-dessus qui rajoute un peu un propos et qui rajoute un peu des. Mais c'est plus quelque chose qui sert le propos de il faut vivre tous les jours comme si c'était le dernier.
Ouais, c'est
plutôt que
ça.
D'être vraiment un truc important dans l'intrigue, même si ça joue par rapport au père, etc. Mais c'est plus un ajout.
Ouais, clairement.
Et du coup, je trouve que, puisque pour rester quand même dans l'histoire de est-ce que le trope fonctionne dans leur relation, je trouve que la façon dont il l'utilise pour la relation amoureuse avec Marie, à part les quelques points qu'on a évoqués qu'on aimait pas trop, ça marche plutôt bien, c'est plutôt mignon, ça fonctionne, c'est rigolo, c'est un peu original. Donc de manière générale, j'ai quand même un sentiment très positif sur ce film.
Oui.
Et je trouve, même si encore une fois, c'est vrai, t'as raison, je trouve que Richard Curtis, ses personnages féminins, j'aimerais bien qu'ils... Parce que tu sais, quand même, les... quand je repense aux autres qu'il a fait, donc Love Actually, et c'est lui qui a fait Good Morning England.
Oui, j'adore ce film.
Et ça, c'est pareil. J'adore ce film, mais où sont les femmes?
Oui, non, mais alors ça, c'est
le test de Bechdel, là, c'est pas possible, en fait.
Il passe pas du tout, et la seule femme qui monte sur le bateau, c'est pour tromper quelqu'un. Enfin, bon, c'est horrible.
Et la cuisinière qui est genre lesbienne.
Oui, après, oui.
Mais en plus, ce que je trouve un peu triste, c'est que je pense vraiment Richard Curtis, je suis très sensible à genre les thèmes qu'il évoque et comment il les évoque, et j'aime bien ce qu'il fait de manière générale, malgré certains de ses défauts. Mais tu sens que c'est quelqu'un qui aime profondément l'amour et les gens. Et du coup, je trouve ça dommage qu'on voit pas plus de femmes mises en avant via son regard, qui pourtant a l'air d'être un regard tout plein de poésie, de charme. Du coup, je suis là, pourquoi ? J'aimerais bien que tu vois Richard Curtis fasse un film où le personnage principal, c'est une femme, par exemple.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, ça existe peut-être, on l'a juste pas vu, donc n'hésitez surtout pas à nous dire si ça existe.
Il me semble pas, mais tu sais quoi, on va aller fouiller, mais...
On va aller fouiller, mais il me semble pas non plus.
Salut, salut les roms communistes, c'est Clara qui s'occupe du montage. Je viens vers vous avec des nouvelles pas tip-top, puisqu'on s'est fait striker ce podcast, si vous entendez cet audio. La conclusion a donc été coupée pour violation de droits d'auteur. Alors que nous ne générons aucun revenu sur ce podcast. Et oui, si vous demandiez si on s'en mettait plein les fouilles, toujours pas. Donc, toutes nos confuses, vous pouvez retrouver sans doute la trace de cet épisode et de sa conclusion sur nos réseaux sociaux, @romcommunlepodcast ou @romcommunlepod. Bisous!